Chapitre 6 La ferme et le grenier à foin. C'est ainsi que se passait la jeunesse de notre héros, et il atteignit l'âge de 15 ans en continuant de faire enrager tous les habitants du château. Mais il montait parfaitement à cheval, il se battait presque aussi bien que son maître, et Müller jurait par ses moustaches que son élève lui ferait honneur. À 15 ans, Henri avait l'air d'un homme, et les passions devaient être aussi précoces chez lui que le physique. Il était grand, bien fait, d'une figure noble et agréable, aussi bon à s'excuser d'une faute que léger à la commettre. Il était brave, humain, sensible, mais emporté, violent, impétueux dans ses désirs, brusque dans ses actions, et ne connaissant aucun frein, aucune modération. Avec un pareil caractère et gouverné par Müllern, il ne pouvait manquer de faire parler de lui en bien et en mal. Le séjour du château de Framberg commençait à ennuyer beaucoup notre jeune homme, qui brûlait du désir de voyager et de connaître le monde. Tous les jours, Müller lui faisait espérer que le colonel allait arriver, et qu'alors il changerait de manière de vivre, mais le temps s'écoulait et le colonel n'arrivait pas. Henri, las de se promener à cheval dans le château, étendait depuis quelque temps ses courses dans la campagne et ne revenait que lorsque la fatigue ou le besoin le forçaient à prendre du repos. Müller, qui n'était plus dans l'âge où l'on se fait un plaisir de s'éreinter, laissait quelquefois son élève faire seul ses promenades lointaines, à condition cependant qu'il reviendrait toujours avant la nuit. Un jour, il partit comme à son ordinaire, mais l'heure habituelle de son retour se passa sans qu'il reparût au château. Müller, occupé à vider une vieille bouteille de rhum avec M. Bettmann, ne s'aperçut pas d'abord de l'absence de Henri. Cependant, la nuit était avancée et il demanda si M. le comte était de retour. On lui répondit que non. Alors il commença à éprouver quelques inquiétudes, mais il présuma que Henri, s'étant éloigné plus que de coutume, n'avait pas prévu que la nuit le surprendrait avant d'arriver au château. Cependant, le temps se passait. Minuit sonna et Henri ne revenait pas. Müller, ne pouvant plus résister à son impatience et à la crainte qu'il fût arrivé quelque malheur à son cher élève, fit seller un cheval, le monta et ordonna aux autres domestiques de partir tous par différents chemins pour aller à la recherche de leur jeune maître. Le temps était sombre. Müller ne laissa prendre à son cheval la première route venue, en ayant soin de lui presser les flancs de manière à ce qu'il ne s'endormît pas. Après avoir galopé assez longtemps, sans découvrir âme qui vive, Müller aperçoit enfin une petite lumière dans l'éloignement. Aussitôt il dirige sa course de ce côté, espérant apprendre enfin quelque chose touchant l'objet de ses recherches. La lumière que Müller avait aperçue venait de la croisée d'une ferme située au milieu des champs. Müller frappe rudement à la porte, un gros dogue se fait entendre et répand l'alarme dans toute la maison. « Qui frappe ainsi ?» demande une grosse voix partie du rez-de-chaussée. « Allons, ouvre, butor, et on te la prendra. »« Oh, ouvrez à cette heure-ci, oui, da. Voyez-vous ce malin qui croit qu'on laisse entrer comme ça les voleurs ?»« Mais qu'appelles-tu voleur ? Apprends maintenant que c'est un ancien maréchal des logis, le précepteur du fils du colonel Frambert, qui te fait l'honneur de venir chez toi. »« Oh, vache l'eau dans ces grosses-là. » « Alors ouvriras-tu ? Ou avec mon sabre, je fais sauter la serrure. »« Oh, il est armé. Holà à moi, là. César, Castor, tombez-moi sur ce coquin-là. » Et en disant ces mots, le fermier ouvre la porte de la cour et lâche les deux dogues qui se jettent sur Müller. Celui-ci, furieux de voir que le paysan n'a pas eu plus de respect en entendant prononcer ses titres et qualités, entre à cheval dans la cour, coupe la tête avec son sabre au premier dogue qui se présente à lui, saute à bas de son cheval, se précipite dans la pièce où était le fermier, cherche celui sur lequel il veut exercer sa vengeance. Mais ce dernier, saisi de crainte en voyant à quel démon il a affaire, prend la fuite pour aller réveiller les garçons de ferme et toute la maison. Müller, de que rien n'arrête, monte un escalier, puis un autre, et arrive au grenier à foin. La porte était fermée. Présumant que son homme s'y est réfugié, il la force, entre, la referme solidement, et s'occupe à faire à tâtons l'examen de l'endroit où il est. Le plus profond silence régnait en ce lieu. Cependant, en retournant les bottes de foin, Müller ne croit entendre le bruit d'une respiration entrecoupée. Il s'avance, tape doucement autour de lui, et reste fort étonné de sentir sous sa main des appâts tout à fait féminins. Il continue à tâter, on ne bouge point. Ce qu'il touche lui fait bien augurer de ce qu'il ne voit pas, et animé par la chaleur de son opération, Müller commence par se venger sur la femme du fermier de l'affront que celui-ci lui a fait. Mais comment la fermière se trouvait-elle là, au milieu d'être tranquillement à dormir dans son lit? C'est ce qu'il est bon d'apprendre au lecteur. Le fermier était un gros homme tout rond, qui avait dû valoir son prix dans son temps, mais il commençait à n'être plus de la première jeunesse. Et la fermière, qui était une commère d'une humeur gaie, d'un tempérament robuste, trouvait depuis quelque temps que son époux n'était plus bon qu'à faire aller la ferme, et c'est pourquoi elle avait jugé à propos de lui adjoindre son premier garçon, un jeune homme qui promettait beaucoup et qui soulageait le fermier dans ses fonctions conjugales. À cet effet, elle se rendait tous les soirs dans le grenier à foin, pendant que son mari s'occupait en bas à faire ses comptes de la journée. Et le garçon de ferme, de son côté, était exact au rendez-vous. Ils y étaient donc tous deux, et dans le feu de leur conversation, ils n'avaient pas entendu celle qui avait lieu entre Müller et le fermier. Ce n'est qu'au moment où celui-ci lâcha ses chiens que le garçon de ferme avertit sa compagne qu'il se passait quelque chose en bas. La fermière était d'avis de ne point se déranger pour si peu, mais le jeune homme, qui ne se souciait pas d'être surpris par son adjoint supérieur, laissa sa belle pour aller voir ce qui se passait. Il paraît que Müller se vengeait vigoureusement et que la fermière prenait plaisir à souffrir pour son mari, car notre hussard était encore en train d'exhaler sa colère lorsque le bruit que faisaient plusieurs hommes en montant l'escalier attira l'attention de la fermière, qui devait être assez contente de sa nuit. « Il est là, » disait la fermière à ses garçons, « j'en suis sûr, gros Jean, prépare ta fourche, et toi, Pierre, tu le prendras par le milieu du corps. » Mais Pierre, qui était le garçon en question, et qui craignait qu'on ne trouvât la fermière dans le grenier, assura à son maître que le voleur n'était pas là, et qu'il avait vu se sauver dans la cave. « C'est égal, » dit le fermier, qui avait à cœur la mort de son chien. « Entre toujours là, si et pas, je vois toujours le bailleur par après. » En disant ces mots, il se mit à taper sur la porte à coups de fourche et de balai, et la fermière, qui reconnut la voix de son époux, engagea Müller, auquel elle portait le plus tendre intérêt, à se sauver sans délai, s'il ne voulait pas être étranglé par son mari. Müller, dont les sens étaient rafraîchis par la vengeance qu'il avait prise, ne demandait pas mieux que de s'échapper, pensant avec raison que toute sa valeur ne pourrait rien contre le nombre qu'il aurait à combattre. Mais par où fuir? Il y avait pour toutes sortes de greniers, pour toutes sorties, que la porte qui était déjà gardée et une fenêtre donnant sur la cour. Là, sauter, c'était éviter un péril pour tomber dans un autre. Et se cacher sous les bottes de foin, on ne manquerait pas de les visiter. Que faire? Il fallait de la présence d'esprit pour se tirer de là. Ce fut la fermière qui en trouva le moyen. « Eh quoi ? » s'écria-t-elle. « Notre homme, c'est toi qui es là ? » ?»« Tiens, Jorny, c'est Catherine. Quoi que tu fais donc là ?»« Pardine, c'est tout simple. Quand j'ai entendu le tintamarre qui se faisait en bas, je me suis sauvé dans le grenier de peur des voleurs. Il n'y a donc pas le coquin que je cherchais. Tiens, s'il y était, ce que je serais, on restait si tranquille, Bouida. Mais attends, je vais t'ouvrir, tu verras toi-même. En disant cela, la fermière fit gâcher Mulherne et ouvrit la porte. Pardine, c'est ben inutile que j'y regardions, dit le fermier, puisque tu y étais. Mais quand je vous dis, notre maître, que j'ai vu sauver à la cave, reprit Pierre. Eh ben, descendons-y tous, mes enfants. J'en pris ma carabine et Morgan y passera à vilain quart d'heure. En disant ces mots, toute la troupe descendit l'escalier pour aller visiter la cave. Et Mulherne, qui les suivait par derrière, arriva dans la cour, y trouva son cheval, sauta dessus et sortit de la ferme au grand galop. Comme le jour commençait à poindre, Mulherne pensa qu'il ferait bien de regagner le château afin de voir si, pendant son absence, Henri ne serait pas revenu. Il commençait à distinguer dans le lointain les tours du château de Framberg lorsque le bruit d'un cheval lui fait tourner la tête. Il s'arrête, regarde et aperçoit Henri qui revenait tranquillement rejoindre son précepteur. « Ah, vous voilà donc, monsieur, je vous retrouve enfin. Mais n'est-ce pas une belle heure pour rentrer se coucher ? Et toi-même, mon cher Mulherne, d'où viens-tu ? Ah ah ! Oh, comme tu es fait ! Mais où t'es-tu donc fourré, mon ami, pour qu'on t'ait mis dans un pareil état ?» En effet, Mulherne, qui n'avait pas eu le temps de se rajuster, était couvert de foin depuis les pieds jusqu'à la tête. « D'où je viens, monsieur ? Morbleu, mais vous êtes cause ! Que pour courir après vous, je me suis fait de belles affaires. J'ai forcé une maison, tué les chiens, rossé le fermier. Un moment plus tard, j'allais être étranglé, sans la pitié d'une femme qui a trouvé apparemment que j'étais encore trop jeune pour mourir et qui m'a procuré les moyens de m'échapper. Ah, mon bon Mulherne, que je suis fâché d'en être la cause. Mais aussi, pourquoi vas-tu te mettre dans la tête de courir après moi ? Je ne suis pas un enfant, et je suis assez grand pour aller tout seul. Oh oui, vous voilà un fier homme. Je voudrais bien savoir comment à ma place vous en seriez tiré cette nuit. Mais il ne s'agit pas de cela. J'espère, monsieur, que vous allez me dire ce que vous avez fait depuis hier. Oh oui, mon ami, tu vas tout savoir, et tu verras toi-même que je n'ai pas tort. J'en doute beaucoup, mais c'est égal, parler. Bien, tu sauras donc qu'après avoir longtemps parcouru la campagne, je me trouvais surpris par la nuit et fort loin du château. Comme j'étais incertain de la route qu'il me fallait prendre pour y revenir, je m'adressai à un paysan qui m'apprit que je n'étais qu'à 2 lieues d'Offenbourg. J'avais donc fait près de 6 lieues en m'éloignant du château. Je pouvais m'égarer en y retournant. Je pensais qu'il était plus sage d'aller passer la nuit à la ville. J'en demandai le chemin au paysan qui me l'indiqua et je partis. Mais je n'avais pas fait un quart de lieue lorsque j'aperçus une petite maison, simple mais de bonne apparence. Je m'approche. Oh, surprise ! Des sons mélodieux parviennent jusqu'à moi. Une musique divine se fait entendre et je reste près d'une heure immobile devant cette habitation, écoutant une voix qui va jusqu'à mon cœur. Ah, diable ! Poussé enfin par la curiosité, ou plutôt par le sentiment secret qui me maîtrisait, je résolus de connaître la personne qui faisait naître en mon âme de si douces sensations. Je frappe, une bonne vieille m'ouvre la porte. Je demande à parler à la maîtresse de la maison. Elle m'introduit dans un petit salon. Une dame d'un âge mûr était occupée à lire. Et auprès d'elle, « Oh, mon ami, comment pourrais-je te peindre ce que l'univers a de plus parfait, ce que la nature a formé de plus beau, un ange enfin ?» Oui, cet ange faisait de la musique. « Oui, mon ami !» C'était la personne que j'avais entendue. À mon approche, elle se tut. La vieille dame se leva et demanda ce qui lui procurait l'honneur de me voir. Je me nommais et je lui racontais comment je m'étais égaré de ma route sans m'en apercevoir. Et au nom du comte de Framberg, je vis un sourire de bienveillance animer sa physionomie. Parbleu, je le crois bien. Elle m'offrit d'attendre le jour dans sa maison. Je lui exprimai mes craintes de la déranger. Et cependant, vous restâtes? Sans doute. Je me plaçai à côté de ces dames. La conversation s'engagea. La jeune personne paraissait timide et réservée. Mais la vieille dame, qui était un peu bavarde, m'apprit que depuis 12 ans environ, elles habitaient la maison où je les avais trouvées, qu'elles ne voyaient personne, parce que le père de Pauline, oui, c'est le nom de la jeune demoiselle, n'aimait pas la société, qu'il était absent depuis quelque temps pour des affaires d'importance, et qu'elles attendaient avec impatience son retour, qui devait leur apprendre si le but de son voyage était rempli. Oh, voilà bien du mystère. Enfin, mon ami. Tout en parlant ainsi, la nuit s'écoula. Et dès que j'aperçus le point du jour, je me levai en faisant mes excuses à ces dames de les avoir fait veiller si tard. Après, oh, je leur demandai la permission de venir quelquefois trouver leur solitude. La bonne dame fit d'abord quelques difficultés. Il fallait lui dire que vous étiez mon élève. Mais enfin, elle consentit à me recevoir quelquefois afin d'égayer un peu la solitude de sa chère Pauline, et parce qu'elle pensait que le fils du colonel Fromberg était digne de cette préférence. J'étais au comble de la joie. La jeune personne ne me parut pas fâchée de la détermination de sa tutrice, et je m'éloignai en portant avec moi l'espoir de voir bientôt celle qui occupera désormais toutes mes pensées. Eh bien, c'est très bien, monsieur. Ainsi, à 16 ans, vous voilà déjà amoureux. Oh, pour la vie, Mlern. Vous avez joliment profité des leçons de sagesse que je vous ai données. Alors, croyez-moi, laissez là votre nouvelle passion, qui ne vous conduira à rien de bon, et qui vous fera faire plutôt quelques sottises si je n'y prends garde. Mais tu n'y penses pas, Mulherne, que j'oublie cette femme adorable, cette femme pour qui je donnerais déjà ma vie. Mais tu l'as donc jamais aimée? Oh, pardonnez-moi, monsieur, j'ai aimé la gloire, le vin et les femmes. Mais quant à ces dernières, cependant, je ne m'y suis jamais livré que modérément. J'ai toujours eu soin d'éviter ces grandes passions qui vous écartent de vos devoirs, vous font vivre en Don Quichotte et vous donnent l'air d'un imbécile. Croyez-moi, c'est ainsi qu'on est heureux, non pas en se remplissant la tête de chimères qui ne deviennent jamais des réalités. Malgré tous les beaux discours état moral dont je fais beaucoup de cas, tu ne m'empêcheras pas, mon cher Muller, de croire que l'amour véritable est le seul bonheur sur la terre, et qu'importe que ce soit une chimère si elle nous rend heureux. Alors, je vois bien que je perdrai mon temps à vous moraliser, et j'y renonce. Mais au moins, je voudrais que l'objet de votre transport en fût digne, et non pas que vous vous livrassiez à une aventurière, comme un apprenti en amour. Ah, garde-toi, Mulherne, d'outrager celle que j'aime. Mais savez-vous seulement le nom de son père? Oui, certainement, il se nomme Christiane. Christiane? Bon, j'ai jamais entendu ce nom-là sur le champ de bataille. Et pourtant, il est militaire. Militaire, oh, c'est bien heureux. Ainsi, tu vois que ce sont des femmes. Je vois que nous voici au château et qu'il est temps d'aller se coucher, en vérité. Monsieur, vous me faites mener une jolie vie. Un maréchal des logis se met au lit quand tout le monde se lève. Et qui t'empêche de rester debout? Ben, c'est que je suis éreinté d'avoir galopé toute la nuit. Et peut-être aussi de t'être enroulé sur le foin, ajouta Henri en riant. Ici, Mulherne se mordit les lèvres et rentra dans sa chambre, de peur que ce ne fût au tour de son élève à lui donner des leçons. Chapitre 7. Réception du colonel. Pendant près de 6 mois qui s'écoulèrent après l'aventure de Henri, il se rendit tous les jours à la maison de sa belle, malgré les représentations de Mullern et la fatigue que lui occasionnaient ses courses réitérées. Un jour, pourtant, Mullern fut très étonné en se levant de trouver encore Henri au château. « Et quoi, vous n'êtes pas parti ?»« Non, Mullern, et je reste. »« Bah, votre Dulcinée vous aurait-elle déjà joué quelques tours de sa façon ?»« Oh, ma Pauline est incapable de changer. » Oh, elle vous a donc dit qu'elle vous aime. Me penses-tu que depuis près de 6 mois que je la vois, nos cœurs ne se soient pas entendus et que nos yeux n'ont pas exprimé notre amour? Oh, je vois bien que c'est une demoiselle qui connaît le service. Non, si je suis pas allé ce matin, c'est que la bonne dame Reichstadt, c'est le nom de celle qui lui sert de mère, m'a averti que le père de ma Pauline devait arriver d'un moment à l'autre, et qui pourrait se formaliser de mes visites avant d'être instruit du commencement de notre connaissance. Ah, si vous voilà séparé de votre belle pour longtemps. Pour longtemps, oh, j'espère bien d'ici à quelques jours me présenter à son père. Il me verra, il m'aimera, et... Et si c'est un homme raisonnable, il vous mettra à la porte de chez lui. En vérité, Mullern, tu me désespères avec tes réflexions. C'est que moi je suis pas amoureux, je dis ce que je pense. » Au bout de 15 jours, Henri, ne pouvant plus tenir à son impatience, résolut d'aller à la demeure de son amante. Mais cette fois, Mullern voulut accompagner son élève, car il était bien aise de voir le père de la demoiselle et de connaître aussi l'objet de ses affections. Henri aurait préféré aller seul. Mais Mullern lui objecta qu'il était plus convenable qu'il l'accompagnât, et que, si le père de Pauline était un brave militaire, la vue d'un ancien maréchal des logis lui inspirait plus de confiance que celle d'un jeune étourdi. Ils partirent donc tous deux. Henri, paressé par le désir de voir sa belle, faisait aller son cheval ventre à terre. Mullern avait beau lui crier qu'il ne pouvait pas le suivre, c'était une raison de plus pour que notre jeune ne s'arrêtât pas. Enfin, ils aperçoivent cette maison tant désirée. Henri est bientôt en bas de son cheval. Mullern examine l'habitation, qui a peu d'apparence et branle la tête d'un air mécontent. Henri frappe. Au bout de quelques minutes, une vieille femme vient ouvrir la porte, mais Henri n'en connaît plus la domestique qu'il a coutume de voir. Il demande en tremblant, « Monsieur Christiane ?»« Il n'habite plus ici depuis 8 jours, monsieur. »« Grand Dieu, et sa fille ?»« Et madame Reichstadt ?»« Sa fille a suivi son père et madame Reichstadt les a accompagnés. » Henri reste comme frappé par la foudre, et Mullern rit aux éclats. « 1000 bombes ! Je suis bien aise que vous soyez débarrassé de votre belle inconnue. »« Ah non, fût-elle au bout de l'univers, je l'y découvrirai !» s'écrie Henri. Et il commence par interroger la bonne femme sur le départ de M. Christiane. Mais il ne peut rien en apprendre, sinon que les 3 personnes qui habitaient la maison sont parties, sans faire connaître le motif ni le but de leur voyage, et que la personne qui y demeure maintenant ne connaît nullement ses prédécesseurs. En disant ces mots, la vieille ferme la porte et laisse nos voyageurs sur le grand chemin. Henri, désespéré, veut aller à Offenburg, parcourir les environs, se mettre en 4 pour retrouver sa belle. Mais Mullern n'entend pas raison et il le force à reprendre avec lui le chemin du château. Ils y étaient depuis quelques jours, Henri ne rêvant que voyage et enlèvement, et Mullern se félicitant du dénouement de cette intrigue, lorsqu'ils apprirent que le colonel Framberg serait sous peu de retour au château. Mullern ne se sent pas de joie. Il va revoir son colonel, son bienfaiteur. Il met tout ça dessus-dessous pour que le comte soit reçu dans ses domaines avec les honneurs qui lui sont dus. Tous les vassaux prennent les armes. Müller les exerce depuis le matin jusqu'au soir, ordonne des combats, des évolutions. Monsieur Bettmann lui-même, qui depuis quelque temps n'était plus propre qu'à s'enivrer, Monsieur Bettmann est forcé de porter le mousquet, de prendre part aux exercices et de monter deux fois par jour la garde sur les remparts du château, ce qui ne le laisse pas de lui déplaire fort. Mais Müller pense que c'est le meilleur moyen de le former. Henri oublie un moment celle qui lui fait tourner la tête, et l'arrivée de son père, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, occupe tout à fait ses esprits. Il partage l'activité de Müller et attend avec impatience le moment de presser son père dans ses bras. Il arrive enfin ce moment si désiré. Monsieur Bettmann, qui était en sentinelle ce jour-là, aperçoit de loin la voiture du colonel. Suivant les ordres de Müller, il tire son coup de fusil pour annoncer son arrivée et tombe par terre à la détente de l'arme à feu. Tout est bientôt en mouvement dans le château. Müller court relever la sentinelle. Il fait baisser le pont-levis. Tous les paysans se rangent sur deux lignes. Müller le recommande de tirer tous ensemble dès que la voiture entrera dans le château. Et M. Bettmann se sauve à la cave pour ne pas entendre ce bruit épouvantable. Mais Müller, qui ne le perd pas de vue, court après lui et le force à rentrer dans les rangs en lui donnant un vieux fusil qui, lui assure-t-il, fera bien moins d'effet que l'autre. Enfin, le bruit des chevaux se fait entendre. La voiture passe le pont-levis. Müller donne le signal. Tous les paysans tirent à la fois. M. Bettmann, effrayé ou électrisé par cette décharge soudaine, essaye de faire comme les autres, mais le fusil qui n'avait pas servi depuis longtemps se crève et éclate dans le nez de M. Bettmann qui se roule en hurlant sous les pieds des chevaux. Ceux-ci, que les cris du précepteur effarouchent, se mettent à galoper dans la cour à tort et à travers, faisant fuir devant eux les vassaux du colonel. Müller crie à tue-tête pour rallier sa troupe. Henri court après les chevaux, qui, stimulés par le vacarme, galopent de plus belle et ne s'arrêtent que devant une mare dans laquelle ils font rouler la voiture, qui écrase en tombant une demi-douzaine de canards. Enfin, les chevaux sont arrêtés et Henri court relever son père qui a roulé dans la mare, mais qui, heureusement, en est quitte pour son grand uniforme couvert de fange et pour avoir au derrière une oie qui avait cherché son refuge près de lui et qui s'était attachée à sa culotte. Pendant que l'on s'occupe à ôter l'animal, qui ne voulait pas lâcher prise, Müller s'avance d'un air consterné. « Oh, mon colonel, daignerez-vous excuser si la réception que je vous avais préparée a manqué son effet ?»« De rien, mon cher Müller, ton attention était bonne et cela me suffit. »« Mais c'est la faute de ce Bettmann, mon colonel. »« Bon, j'en serai quitte pour changer d'habit. »« Et lui pour un œil, mon colonel. »« Mais où est mon fils ?»« Mon Henri, viens donc dans mes bras. » Le jeune homme se précipite dans les bras du colonel, qui le regarde avec attendrissement en s'écriant « Oh, c'est elle, c'est ma Clémentine !» et il le serre tendrement contre son cœur. Henri, de son côté, sentit naître dans son âme le sentiment profond de respect et de reconnaissance qu'il devait à celui qu'il regardait comme son père. Après quelques instants donnés à la sensibilité, le colonel pensa qu'il ne ferait pas mal d'aller se déshabiller. Il engagea Henri à aller voir si tout était rentré dans l'ordre au château, et il fit signe à Müller de le suivre dans son appartement. « Eh bien, bon cher Müller, » dit le colonel lorsqu'ils furent seuls, « c'est à toi que j'ai confié mon cher Henri, il y a près de 12 ans. Pendant que j'ai employé ce temps à parcourir le monde, à battre les ennemis et à me distraire enfin, du souvenir déchirant de la perte d'une femme qui méritait bien si bien mes larmes et mes regrets. Comment as-tu passé, toi, que j'ai changé spécialement de forme et le cœur de mon fils? Tu n'as pu encore me rendre compte de tes peines, de tes soins et de la manière dont tu t'y es pris pour faire de Henri un homme, dont je n'ai jamais à rougir, dis-moi. Y as-tu réussi? Oui, mon colonel, et fièrement réussi, je m'en vante. Allez, le jeune homme est un gaillard qui fera des siennes. Comment? C'est-à-dire, mon colonel, qu'il fera parler de lui. D'abord, il est brave, j'en réponds, et il se bat. Oh, j'espère que vous le verrez vous-même et que vous m'en ferez compliment. Ensuite, il est humain, généreux, sensible. Oh, pour sa source sensible. Non, je vois qu'il aura toutes les vertus de sa mère. Oh oui, mon colonel, je crains seulement que cette sensibilité ne le mène trop loin. Que veux-tu dire? Oh, c'est que le jeune homme aura diablement de goût pour le sexe. Tu crois? Parbleu, si je le crois. Ici, Muller s'arrêta, se rappelant qu'il avait promis à Henri de cacher au colonel son aventure avec sa belle. Ainsi, Muller, tu es donc entièrement satisfait de mon fils?
Oui, mon colonel, très satisfait. C'est un élève qui me fera honneur un jour, j'en suis certain. Ce n'est pas qu'il m'ait bien aussi quelques petits défauts. D'abord, il est violent, impatient, emporté.
Oh, mais tu ne m'avais pas dit cela!
Oh, mais soyez tranquille, mon colonel. Ses défauts se corrigent avec l'âge. Et lorsque le cœur est bon, il y a toujours du remède, et le sien l'est. Oh, j'en réponds, autant que le vôtre, mon colonel. Il était digne d'être votre fils.
Que dis-tu, Mullern? S'écria vivement le colonel.
Mullern se troubla, se gratta l'oreille, s'aperçut qu'il avait dit une bêtise. Cependant, il prit son parti et répondit. Bah, mon colonel, puisque le mot est lâché, je ne chercherai pas à me rétracter. D'ailleurs, tenez, je ne sais pas dissimuler. Et j'avoue que cela me coûtait d'avoir quelque chose à vous cacher, mon colonel. Eh bien, Mullern, puisque tu sais le secret de la naissance de Henri, je ne veux plus feindre avec toi. D'ailleurs, le hasard... Les événements me forceront peut-être un jour à tout lui dire. Et si je venais à perdre la vie avant de lui avoir révélé ce secret, je ne serais pas fâché qu'un autre que moi en fût dépositaire. Mais songe bien, Muller, à ne jamais divulguer à personne ce que je vais t'apprendre, sans y être forcé par les circonstances les plus impérieuses ou sans un ordre de ma part.
Soyez sans inquiétude, mon colonel. Je vous en donne ma parole. Vous me connaissez et vous savez que Mullern est incapable de violer son serment.
Le colonel Fromberg apprit alors à Mullern tout ce qui concernait la naissance de Henri, ainsi que le véritable nom de son père, que Clémentine lui avait dit. Plusieurs mois s'écoulèrent. Le colonel Fromberg aimait Henri comme son fils. Mais il s'aperçut cependant que l'élève de Muller n'était pas tout à fait aussi parfait que ce dernier le lui avait dit. Henri était, malgré cela, beaucoup plus sage dans le château depuis que le colonel y était de retour. Un jour, le comte de Framberg fit venir Henri dans son appartement et lui parla en ces termes. « Mon cher fils, tu commences à être d'un âge où le séjour d'un vieux château habité seulement par ton père, n'est plus suffisant pour toi. Tu n'as cependant que 17 ans, mais tu as l'air d'un homme, et je crois que je puis sans danger te livrer pour quelque temps à toi-même. »
Comment, mon père? S'écria Henri.
Oui, mon ami, je veux dire que tu vas voyager. Tu vas apprendre à connaître le monde. Je suis parti pour l'armée à 15 ans. Ah, si tu vois que j'étais plus jeune que toi.
C'est donc à l'armée que vous m'envoyez, mon père?
Non, mon cher Henri. Comme tu ne parais pas avoir un goût bien décidé pour le métier des armes, malgré l'éducation que Muller t'a donnée, nous attendrons que le désir t'en vienne. Mais je ne veux pas que tu passes ta jeunesse dans ce château. Tu vas voyager, parcourir le monde. Cela te formera tout à fait.
Et vous, mon père?
Moi, mon ami, je commence à être d'un âge
où l'on préfère le repos à tous les plaisirs. Je reste donc dans ce château, et j'y attendrai tranquillement ton retour, bien persuadé que la conduite que tu tiendras loin de moi ne me forcera pas d'aller te chercher. Ah, mon père, soyez sûr que je n'oublierai jamais vos leçons. En ce cas, c'est donc une chose arrangée. Tu partiras dans 8 jours. Oh, j'aurais bien voulu que Müller ne t'accompagna dans tes voyages. Mais ce bon hussard, dont je suis séparé depuis longtemps, sera la seule personne qui partagera ma solitude pendant ton absence. D'ailleurs, le repos lui devient nécessaire aussi, et il restera auprès de moi. Tu prendras Franck, le fils du jardinier, pour te servir de domestique. Tu m'as paru intelligent. Je crois que tu en seras content. Henri, enchanté de la détermination de son père, prépara tout pour son voyage. Le souvenir de sa chère Pauline ne s'était jamais effacé de sa mémoire, et il espérait, dans le cours de ses voyages, parvenir à savoir ce qu'elle était devenue. Le jour du départ arriva. Henri s'éloigna du château de Framberg, accompagné de Franck, et bien pourvu de tout l'argent qui lui était nécessaire. Le colonel pleura en voyant son Henri se séparer de lui, et Müller lui-même sentit quelques larmes couler sur ses joues en quittant celui dont il avait formé la jeunesse et pour lequel il aurait donné sa vie. 18 mois s'écoulèrent pendant lesquels Henri donna assez régulièrement de ses nouvelles. Mais au bout de ce temps, les lettres cessèrent. Le colonel et Müller, alarmés tous deux de ce silence, ne savaient qu'en conclure. Enfin, le colonel se décida à faire prendre des informations sur la conduite de son fils, et il apprit qu'elle n'était pas aussi exemplaire qu'il s'était plu à le croire, et que le jeune homme se livrait à toutes ses passions. D'abord, Müller prit le parti de son élève et chercha à l'excuser auprès de son colonel, en lui répétant qu'il fallait que la jeunesse se passât, et que lui, étant jeune, en avait fait bien d'autres. Le colonel finissait toujours par s'apaiser, mais bientôt, une nouvelle plus importante vint mettre fin au discours de Müller. On apprit au colonel que son fils était à Strasbourg avec une jeune personne inconnue qu'il était sur le point d'épouser. Le colonel pensa qu'il était de son devoir de prévenir la sottise que Henri était prêt à faire et se décida à partir pour Strasbourg avec Müller. Oh, il a le diable au corps avec les femmes, ce jeune homme-là, s'écria Müller en voyageant avec son colonel. J'aurais bien dit que cela lui jouerait de mauvais tours. Mais ventre bleu, j'aurais bien plutôt arrêté un boulet que de lui faire entendre raison. Le colonel ne répondait rien, mais il commençait à croire que Müller était meilleur pour se mesurer avec l'ennemi que pour faire une éducation. Enfin, ils arrivèrent à Strasbourg, où ils apprirent que Henri était parti depuis peu pour Paris. Le colonel, sans s'arrêter, prend la route de la capitale avec Müller. Et arrivés à Paris, ils sont informés que Henri en est reparti la veille pour retourner à Strasbourg. « Mais retournons aussi à Strasbourg, dit le colonel à Müller. Oh, 1000 citadelles, mon colonel, répond Müller. Mais je crois que le jeune homme se moque de nous. » Nous avons vu comment, dans un chemin de traverse que le postillon avait pris pour arriver plus vite, celui-ci versa dans un fossé Müller et son colonel, mais nous ne savons pas comment Müller se tira de la cave où nous l'avons laissé. Oh, il est temps d'aller à son secours. Chapitre 8. L'homme mystérieux.
Miséricorde, au secours! S'écrie la personne sur le nez de laquelle Müller était tombé.
« Qui es-tu ? Parle !» dit ce dernier en lui mettant son sabre sur la poitrine.
« Oh, mon Dieu ! C'est un chef de voleur.
Répondras-tu, j'en fais, au lieu de te lamenter. Dis, qui es-tu ? Que faisais-tu là ?
Je suis le concierge de cette maison, et en l'absence de mon maître, j'étais descendu à la cave où je me suis endormi en...
Oui, en buvant le vin qu'elle renferme.
Ah, je commence à comprendre. Je te tiendrai bien volontiers compagnie, mon ami, mais Mon colonel est là-haut, qui attend le résultat de mes recherches. Je ne veux pas le laisser languir plus longtemps. Hein. Allons donc lui donner de la lumière. Après cela, si tu veux, nous redescendrons ici, où je t'aiderai avec plaisir à vider quelques flacons. En disant ces mots, Müller nous pousse son hôte vers l'escalier. Celui-ci, après avoir ramassé sa chandelle, monte en tremblant devant Müller, ne sachant encore que penser de cette aventure. Arrivé dans une pièce du haut, Karl, c'était le nom du concierge, allume sa chandelle sans oser lever les yeux sur la personne qui va avec lui. « Allons, mange devant moi, lui dit Müller, que nous retrouvions mon colonel. » Après avoir parcouru plusieurs chambres, il rencontre enfin le colonel et le postillon, qui étaient très inquiets de l'absence de Müller. Tenez, mon colonel, dit ce dernier, voici le seul être vivant de cette maison. Je l'ai découvert à la cave. Oh, brave homme, dit le colonel à Karl, daignerez-vous excuser la manière dont nous nous sommes introduits dans cette maison? Karl, que la peur avait dégrisé, écoutait avec attention le colonel. Oh ben, vous n'êtes donc pas des voleurs? S'écria-t-il quand ce dernier eut fini de parler. Mais qu'appelles-tu des voleurs? Dit Müller. Non, mon ami, reprit le colonel, nous sommes des voyageurs. Oui, je me rendais à Strasbourg avec ce brave militaire lorsque notre chaise a versé dans un fossé. Je me suis blessé à la jambe et, n'apercevant nul abri pour passer la nuit, nous avons cherché à entrer dans cette maison dans l'espérance que nous y trouverions quelque secours. Oh, mais dès que vous êtes des voyageurs, je suis tout à votre service, monsieur. Mon maître est absent depuis quelques jours. En attendant qu'il revienne, je vais vous conduire dans une chambre où vous trouverez un bon lit. À la bonne heure, mon vieux, dit Müller, non. Frappant sur l'épaule de Karl. Voilà qui me réconcilie avec toi. Je vois que tu es un bon enfant, que nous arrangerons ensemble. Mais, dit le colonel à Karl, vous m'avez dit que votre maître était absent. S'il revenait, ne craignez-vous pas qu'il ne vous gronde votre généreuse hospitalité? Oh non, monsieur, répond Karl. Mon maître est un homme singulier, quelquefois sombre et silencieux. Ou bien gay et causeur, mais du reste, j'ai toujours vu assez humain envers tout le monde, et je ne doute pas qu'il n'approuve ma conduite à votre égard. Morbleu, à moins que ce ne soit un ours, nous l'apprivoiserons, dit Müller. Le colonel, qui avait grand besoin de repos, pria le concierge de vouloir bien le conduire dans l'endroit qu'il lui destinait. Karl s'empressa de lui obéir. Müller et le postillon portèrent le colonel sur leurs bras, car sa blessure était empirée au point qu'il ne pouvait plus se soutenir. Ils arrivèrent dans une chambre agréablement située, ayant vue sur le jardin qui était derrière la maison. Le colonel se fit mettre au lit et engagea Müller à aller aussi se reposer, l'assurant qu'il l'appellerait dès qu'il aurait besoin de lui. « Ah, ça, mon brave, dit Müller à Karl, en descendant de la chambre du colonel, quoique nous soyons diablement fatigués, moi et ce grand nigaud-là, en montrant le postillon, qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas plus, je crois qu'avant de nous coucher, nous ferions pas mal de nous restaurer un peu, car depuis près de 12 heures, nous n'avons rien pris, et moi, je ne peux pas m'endormir quand j'ai le ventre creux. » Voilà qui est bien parlé, monsieur Müller, dit le postillon, et je suis tout à fait de votre avis. En ce cas, monsieur, je vais tâcher de vous donner à souper, mais vous mangerez ce qu'il y aura. Oh, nous ne sommes pas difficiles à la guerre comme ailleurs. Je mange ce qu'on me donne, mais j'ai cru m'apercevoir que la cave était bien garnie. Karl se mit à rire et ces messieurs s'occupèrent aussitôt des préparatifs de leur souper. Tout fut bientôt prêt, ils se mirent à table. Müller complimenta Karl sur son vin. Le postillon ne disait pas une parole, de peur de perdre un coup de dent, et le concierge, qui avait un grand faible pour le vin, était enchanté de trouver des gens capables de lui tenir tête,
fut bientôt de très belle humeur et fort en train de causer. Et il se mit à raconter la manière dont son hôte vivait.
« C'est un drôle d'homme, leur dit-il, que M. de Monterranville. Il passe sa vie à courir les champs, à voyager je ne sais où, ou à s'enfermer dans cette maison. Il ne voit personne que moi et un grand diable que je ne connais pas. Il est tantôt triste, tantôt gai. Enfin, depuis près de 10 ans que j'habite avec lui cette demeure, je n'ai pas encore pu définir son caractère, ni comprendre les motifs de ses fréquentes absences.
Mais c'est que tu n'es pas un malin, toi, triple cartouche.
On ne m'en a jamais fait à croire à moi, et en voyant un homme, j'ai toujours deviné dans ses yeux ce qu'il était.
Bon, dit le postillon, il y a des figures où on ne comprend rien du tout.
Il y en a aussi de bien trompeuses, reprit Karl.
Mais tout cela ne fait rien, mes amis, continue Mulherne. Un homme a beau vouloir cacher ce qui se passe dans son âme, un coup d'œil pénétrant parviendra toujours à découvrir la vérité. Et je crois que, malgré toute l'astuce dont certaines gens sont capables, la nature n'a pas donné le même regard au scélérat et à l'homme vertueux. Aussi, oh, que je vois seulement une fois ton monsieur de Monterranville, et je t'aurais bientôt dit ce qu'il est.
Après avoir encore longtemps vanté sa pénétration en physionomie, Mulherme s'aperçut enfin que ses deux convives ne l'écoutaient plus et qu'il dormait profondément. S'étendant alors tout de son long dans un fauteuil, il ne tarda pas à les imiter, et ils ronflèrent bientôt à l'unisson. Le lendemain, le colonel n'était pas en état de se lever. Il avait mal passé la nuit, et sa blessure, irritée par la fatigue qu'il avait éprouvée depuis plusieurs jours et par l'impatience qui échauffait son sang, prenait un caractère fort alarmant. Le bon Karl, qui était un peu médecin, lui mit un appareil sur la jambe et lui ordonna la plus grande tranquillité. C'était bien ce qui faisait damner le plus le colonel, mais il fallut se soumettre à la nécessité. Le postillon partit pour Strasbourg avec ordre de ramener sous peu des chevaux. Le colonel et Müller étaient depuis 8 jours dans la maison isolée lorsque le propriétaire revint de son voyage. Le colonel était au désespoir d'être ainsi à la charge d'une personne qu'il ne connaissait pas. Mais M. de Monterranville, en apprenant ce qui s'était passé dans sa maison, loua beaucoup la conduite de Karl et monta dans la chambre du colonel afin de l'assurer du plaisir qu'il éprouvait d'avoir pu lui être utile dans cette vacheuse circonstance. Le colonel était dans son lit et s'entretenait avec Mulherne de la conduite de Henri lorsque son hôte entra dans sa chambre. Il s'approcha du lit du colonel en lui disant que, quoiqu'il fût désespéré de l'accident qui lui était arrivé, il se félicitait de ce que c'était dans sa maison qu'il avait trouvé du secours. Pendant que le colonel répondait à ses discours obligeants, Müller s'était retiré de côté et s'amusait à considérer les traits de ce nouveau personnage. M. de Monterranville était un homme d'une 50aine d'années, grand, maigre, d'un teint olivâtre, les yeux vifs et perçants lorsqu'il regardait quelqu'un en face, mais il était ordinairement baissé, du reste d'une figure assez belle et d'une tournure distinguée. « Je n'aime pas cet homme-là, » se dit en lui-même Mulherne, après avoir considéré M. de Monterranville. « Ou je me trompe fort, ou il n'est pas franc dans ses discours. » Quant au colonel, il remercia beaucoup le propriétaire de la maison et se félicita d'être si bien tombé. Ce dernier le quitta en le priant de faire comme chez lui. Lorsqu'il fut parti, Müller fit part à son colonel de ses pensées relativement à leur hôte. Mais le colonel le traita de visionnaire et ne partagea pas son opinion. La chambre où couchait Müller se trouvait positivement en face de celle du maître de la maison. Seulement, comme elle était un étage plus haut, il pouvait distinguer par-dessus les demi-rideaux
qui était aux fenêtres, ce qui se passait dans l'appartement de ce dernier. En rentrant se coucher, Mulherne faisait ses conjectures sur la personne chez laquelle ils étaient tout en réfléchissant. L'heure s'écoula et il vit à sa montre qu'il était près de minuit. Il se leva pour éteindre sa chandelle et en passant près de sa fenêtre, aperçut de la lumière dans la chambre de M. de Monterenville. La curiosité et le désir de voir s'il ne découvrirait pas quelque chose qui pût justifier ses idées, l'engagèrent à regarder un moment chez son voisin. Il éteignit sa chandelle pour qu'on le crût couché et se posta doucement dans une encoignure de sa croisée. Il resta assez longtemps dans cette position sans rien voir. Ennuyeux d'attendre inutilement, il allait se coucher lorsqu'il aperçut M. de Monterenville se promenant à grands pas dans sa chambre comme un homme absorbé dans ses réflexions. Il vit ensuite ouvrir son secrétaire, en tirer plusieurs sacs d'argent, les examiner et en compter quelques-uns, puis laisser tout cela pour retomber dans ses rêveries. Ennuyé de ne pas en voir davantage, Mulherne prit le parti de se coucher, fort mécontent de ne pouvoir deviner ce que tout cela voulait dire. Le lendemain, même manège de la part de Mulherne, même conduite de M. de Monterenville, si ce n'est qu'il ne toucha pas à son secrétaire. Mais il continua de se promener lentement, s'arrêtant quelquefois pour se frapper le front ou bien se jetant sur une chaise dans l'attitude du plus violent désespoir. Mulherne finit par envoyer au diable son hôte et ses promenades mystérieuses, et se coucha en pensant que M. de Monterenville était somnambule ou qu'il avait des accès de folie. Cependant, le temps s'écoulait. La blessure du colonel se guérissait, mais lentement. Ennuyé de ne point avoir de nouvelles de Henri, voyant bien qu'il ne pourrait couvrir de longtemps sur ses traces, il résolut d'envoyer Mulherne en avant pour apprendre enfin où les choses en étaient, et il le fit venir dans sa chambre pour lui faire part de son projet. « Mulherne, lui dit-il quand ils furent seuls, « on ne peut résister à mon impatience. Il faut absolument que je sache ce que fait maintenant Henri. « Mille bons, mon colonel, mais croyez-vous que je ne désire pas autant que vous et que je ne fume pas aussi de vous voir encloué dans votre lit comme une vieille pièce de 48 ?»« Mais que voulez-vous, mon colonel ? Il faut prendre courage. » »« Écoute, Mulherne, si tu le veux, je n'attendrai plus patiemment ma guérison. » »« Oh, si cela dépend de moi, mon colonel, vous savez que vous n'avez qu'à parler. » »« Eh bien, en ce cas, mon cher Müller, tu vas partir pour Strasbourg et courir sur les traces de Henri. » »« Quoi, mon colonel, vous voulez que je vous laisse seul dans cette vieille citadelle démolie ? » ?»« Pourquoi pas ? Ayant pour toute compagnie un homme qui ressemble assez à un orang-outan. Mais songe donc que bientôt je serai guéri et qu'alors j'irai te rejoindre. Oh, ce sera un regret que je vous quitterai, mon colonel. Mais cependant, puisque vous le voulez, je dois obéir. N'oublie pas, Mulherne, que les moments sont précieux. Tu sais ce qu'on nous a dit de Henri. Je tremble qu'il ne soit déjà marié. Oh, le sais donc, mon colonel. Il n'osera jamais faire une telle sottise sans votre consentement. D'ailleurs, si cela est, oui, mon colonel, qu'est-ce que je ferai si cela est? Ma foi, oh, tu feras ce que tu jugeras convenable. Mais si, comme je l'espère, cela n'est pas, alors fais en sorte de voir l'objet qui captive le cœur de notre jeune homme, et surtout te laisse pas tromper par les apparences. Oh, soyez tranquille, mon colonel. Ce n'est pas à moi qu'on en revend, surtout en fête de femme. Et la prude la plus pincée ne prendrait pas dans ses filets. La chose une fois arrangée, Mulherne s'occupa de son départ. Le postillon avait depuis longtemps ramené les chevaux qu'on lui avait demandés. Mulherne en monta un et, après avoir bien recommandé son maître au vieux Karl, qu'il aimait beaucoup mieux que le maître de la maison, et fait ses adieux à son colonel, il prit au grand galop la route qui devait le conduire près de son élève. Nous allons laisser le colonel chez M. de Montéranville et voir un peu ce que fit Müller à Strasbourg.